Bonjour, on va continuer le message qu'on avait commencé la première fois, qui était le New Age selon la Bible. Donc on s'était arrêté au quatrième point, on avait vu quatre points qui montrent que le Nouvel Âge est un mensonge du diable. On avait vu, déjà, on avait commencé par voir qu'est-ce que le Nouvel Âge, donc une brève description du Nouvel Âge, ses origines, et on avait vu vraiment que les personnes qui étaient à l'origine du Nouvel Âge étaient des personnes qui étaient vraiment très mal intentionnées, qui étaient des personnes qui étaient lucifériennes. Donc on a vu ça, on a vu aussi donc que le Nouvel Âge est une séduction du diable, c'est-à-dire que les promesses de Dieu, les promesses de la Bible, le diable les pervertit et a créé donc cette fausse religion qui s'appelle le Nouvel Âge et qui pervertit les promesses de Dieu. Donc c'est basé sur des promesses mensongères. On avait vu par exemple, le premier point qu'on avait vu la semaine dernière, pour faire un bref résumé de ce qu'on avait vu, enfin c'était il y a un mois pardon, c'était le fait qu'on est pèlerin sur la terre. Et donc dans le Nouvel Âge, il y a cette notion d'être pèlerin du cosmos. Donc c'est un livre d'un auteur qui est reconnu dans le Nouvel Âge qui s'appelle Pèlerin du Cosmos, et comme quoi on aurait tous la vie éternelle automatiquement. Donc on serait déjà tous éternels, on serait déjà tous destinés à aller vivre ailleurs automatiquement en fait. Donc il n'y a pas de notion de péché, il n'y a pas de notion d'enfer, il n'y a pas de justice. Alors que la Bible nous parle, oui, d'être pèlerin sur la terre, mais la vie éternelle n'est pas automatique. C'est un choix à faire. La vie éternelle est en Jésus-Christ, il nous faut la recevoir. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, on avait vu que dans le Nouvel Âge, il y a cette notion d'illumination, d'éveil, donc que nous promet le Nouvel Âge, qu'on peut s'illuminer, on peut s'éveiller, ça s'appelle l'éveil des consciences aussi. Et ça, c'est un mensonge, ça vient du bouddhisme, et puis ça vient de l'hindouisme. Alors que la Bible, elle, nous promet la nouvelle naissance. C'est ça, la vraie illumination, c'est la nouvelle naissance qui nous permet de devenir un enfant de Dieu, et qui fait qu'on a des écailles qui tombent de nos yeux, et qu'on a l'Esprit Saint qui vient en nous. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est il y a beaucoup d'auteurs du Nouvel Âge qui promettent une nouvelle terre, qui promettent un nouveau monde, et ce qui est beaucoup relié au nouvel ordre mondial. Et donc ça, ce sont des promesses mensongères, parce que c'est l'homme qui doit amener cette nouvelle terre, c'est l'homme qui doit évoluer pour que le monde soit meilleur. Alors que la Bible ne dit absolument pas ça, elle dit que c'est Dieu qui va amener la nouvelle terre, et donc c'est Jésus-Christ qui va amener cette nouvelle terre, et on ne va pas y aller automatiquement. Toutes les personnes n'ont pas aller automatiquement sur cette nouvelle terre, il nous faut justement être né de nouveau, il nous faut être enfant de Dieu. Donc voilà les trois premiers points. Le quatrième point qu'on avait commencé, et c'est le fait que dans le Nouvel Âge, on est soi-même, soit Dieu est déjà en nous, soit on doit devenir Dieu, soit Dieu, nous devons être semblables à Dieu. Voilà. Donc dans le Nouvel Âge, on a cette notion de Dieu est en tout, Dieu est déjà en nous, ou l'humain divinisé, donc c'est de l'humanisme. Et c'est exactement ce que le diable voulait, être semblable au Très-Haut. Donc on avait lu Ésaïe chapitre 14 qui montrait que le diable voulait être semblable au Très-Haut. Et donc on va reprendre ici. On va développer un peu plus cette partie. Et pour commencer, je voulais lire un petit passage du document qui nous parle justement de la vision du New Age par rapport à ça. Donc lire quelques notions sur le Nouvel Âge, qui nous dit « Pour le New Age, le monde créé est de l'ordre de l'illusion. Nous serions tous une seule et même réalité spirituelle à l'intérieur de laquelle chacun de nous existe. C'est ce que l'on appelle une vision moniste du monde. Dans ce monde, l'homme nouveau sera appelé par son intelligence et sa conscience à acquérir une nouvelle perception afin de se renouveler totalement. Cette vision du monde est très inspirée de la pensée ésotérique, selon laquelle il faut accéder à une réalité cachée pour entrer dans une sorte d'éveil permettant l'accès à la vraie connaissance. » Donc on nous fait croire qu'il y a une connaissance mystique, une connaissance cachée dans le Nouvel Âge, et ça ressemble exactement à ce qu'on avait vu dans Genèse chapitre 3, « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dès lors, l'homme n'a plus besoin d'être sauvé, il est simplement appelé à se développer et accède petit à petit à cet état de conscience supérieure. L'homme est libéré de la culpabilité de faire le mal et n'a plus besoin de relation personnelle avec Dieu. Si pour nous, chrétiens, la relation à Dieu est centrale et notre joie est de nous adresser à Jésus, au Père et au Saint-Esprit, pour les adeptes du New Age, il n'en est rien. D'une certaine façon, il n'y a plus d'autre. La transcendance n'est plus un autre, mais une énergie impersonnelle. Donc le New Age conduit en fait à un orgueil très simple, mais bien réel, un orgueil spirituel qui fait dire à la personne qu'elle a tout en elle. Il y a dans le New Age une posture luciférienne presque diabolique. Donc, c'est exactement ça. Dans le Nouvel Âge, tout est en nous, tout est déjà en nous, on doit exprimer, on appelle ça le soi supérieur, donc on est soi-même Dieu. Dieu est déjà en nous, on est une partie de Dieu. Donc c'est exactement, c'est ça, c'est une posture luciférienne, diabolique. Et il y a un célèbre auteur aussi dans le Nouvel Âge qui s'appelle David Spangler, qui a écrit un livre qui s'appelle Reflections on the Christ, et il dit « Le Christ est la force d'évolution primordiale de la création. Cette énergie divine que nous désignons sous le nom de Christ est la puissance de la vie, de l'amour, de l'intelligence, qui maintient toute la création dans l'existence. » Donc ça, c'est sa vision de Jésus-Christ, enfin la vision du Christ. « Cette force existe à tous les niveaux du réel mais les modalités de sa manifestation diffèrent. La manifestation du Christ au niveau de la planète ou à l'intérieur d'une rose est différente de celle qui existe en l'homme, mais l'énergie est la même, elle est omniprésente. Donc pour lui, Christ est une force, c'est une énergie. Alors que la Bible dit que Jésus-Christ est une personne. Et le Christ peut être considéré comme l'âme de l'univers, l'énergie qui synthétise, guide et dirige l'évolution. Il constitue le lien entre l'esprit divin, donc c'est ce qu'il dit, le soi unique et indivisible, avec la vie divine qui se manifeste dans la variété et la complexité infinie des forces qui constituent la création telle que nous la connaissons. Ça, c'est des mensonges. Donc lui-même dit que c'est le soi unique et indivisible, donc comme si nous-mêmes, nous devions être Christ, comme si Dieu vivait déjà en nous. Ça, c'est la vision du Nouvel Âge sur qui est Jésus-Christ. Et on voit vraiment que, comme il était écrit, que ça conduit à un orgueil démesuré, parce qu'on croit soi-même être Dieu. Donc voilà, c'est un texte à propos de ça, donc on va reprendre le sermon. On va voir justement qu'est-ce que dit la Bible par rapport à tout ça. Donc on avait vu dans Ésaïe chapitre 14 que le diable, Lucifer, voulait être semblable au Très-Haut. Et donc dans le New Age, on a cette idée qu'on est déjà nous-mêmes divins, qu'on est nos propres créateurs, que Dieu est en tout, tout est parti de Dieu. Donc ça, c'est un gros piège du diable. On n'est pas divins, on est des hommes. On est des créatures de Dieu. Dieu nous a créés à son image, mais nous ne sommes pas divins. Et de même, beaucoup aussi, dans le Nouvel Âge, enseignent que Christ est déjà en nous. Donc Christ vit déjà dans chacun d'entre nous. Même, ils disent que Christ est dans les pierres, Christ est dans les fleurs, etc. Que Christ, en fait, est une énergie. Ou alors qu'on doit devenir Christ. Ça, c'est des mensonges. En fait, vouloir devenir Christ, comme ils veulent dans le Nouvel Âge, c'est vouloir devenir Dieu. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc c'est vouloir être semblable au Très-Haut. C'est exactement comme le diable. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 27, à la fin du verset, il est dit « Christ en vous, l'espérance de gloire ». Donc en tant que chrétien, notre espérance de gloire, c'est Christ en nous. Mais pour avoir Christ en nous, il faut déjà être sauvé. Christ n'est pas automatiquement dans les personnes. Il nous faut justement vivre la nouvelle naissance. Il nous faut croire en Jésus-Christ afin de recevoir Christ en nous. Et donc il faut être sauvé pour avoir Dieu qui vit en nous. La Bible dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ». Si vous croyez en Jésus, oui, vous avez la vie éternelle, vous avez Christ en vous. Mais ce n'est pas automatique d'avoir Christ en soi. Donc voilà, pour ce quatrième point, on voit vraiment que le Nouvel Âge nous promet des choses mensongères en disant qu'on peut devenir Dieu, que Dieu est déjà en nous, qu'on n'a pas à s'inquiéter en fait, parce qu'on va automatiquement avoir la vie éternelle, que voilà, Dieu est partout, etc. Il n'y a pas de notion de péché, il n'y a pas de bien et de mal. Et là, on voit la vérité de la Bible qui est qu'il faut croire en Jésus pour être enfant de Dieu. Le cinquième point, donc pour continuer le message sur le New Age selon la Bible, c'est que dans le Nouvel Âge, on nous promet une fausse lumière. Et ça ressemble à, comme on a vu dans Genèse chapitre 3, « Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. » Et donc c'est la lumière de Lucifer, le porteur de lumière. C'est cette lumière qu'on retrouve dans le Nouvel Âge, c'est la lumière de Lucifer. Et on va lire à ce sujet un document qui parle justement de cette lumière qu'on nous promet dans le Nouvel Âge. Donc c'est une citation de Helena Blavatsky, c'est une célèbre auteure, qui, je pense que c'était au 19e siècle. Elle a écrit « Abrégé de la doctrine secrète » et c'est une des précurseurs du Nouvel Âge. Donc c'est une des auteurs qui a amené par la suite le Nouvel Âge. Il y a aussi Alice Bailey, il y a plusieurs auteurs comme ça. Et on va lire justement une citation de ce qu'elle dit. Elle dit « Satan a toujours existé en qualité d'adversaire, de pouvoir opposé, requis pour l'équilibre et l'harmonie des choses dans la nature, comme l'ombre est nécessaire pour rendre la lumière plus brillante. Il n'y a pas de mal en soi, il n'y a que l'ombre de la lumière, sans laquelle celle-ci ne pourrait exister, même pour nos perceptions. » Le mal est une force qui est opposée, mais en même temps nécessaire au bien, comme lui conférant une vitalité et une existence qu'il ne pourrait jamais voir autrement. Et voilà, je vais avancer un petit peu. Elle dit aussi que la lumière astrale, etc., elle cite des choses qui sont, par exemple, la Vierge sidérale, la lumière astrale, elle parle des cabales, de l'alchimie. Et elle dit « N'est autre que celle que l'Église appelle Lucifer. Pour le profane, la lumière astrale peut être Dieu et le diable en même temps. » Lucifer, c'est la lumière divine et terrestre, le Saint-Esprit et Satan à la fois, car les effets manifestés des deux ne font qu'un. Donc en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que Dieu, que Satan est Dieu, et que le Saint-Esprit et Satan, c'est la même chose, c'est la lumière divine. Donc en fait, elle appelle le mal bien, et elle appelle le bien mal. Donc elle pervertit complètement la Bible, et cette femme est bien sûr luciférienne. D'ailleurs, elle a écrit, elle est à l'origine d'une revue qui s'appelle Lucifer. Et c'est ça qu'il faut savoir, si vous êtes dans le Nouvel Âge, c'est ces personnes-là qui ont initié ces mouvements-là. Et donc ça vous devrait vous faire réfléchir et fuir ça, parce que c'est diabolique, ça vient du diable. Et donc on voit cette notion de fausse lumière, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire, parce qu'on parle souvent de la lumière dans le Nouvel Âge, la lumière, ça revient souvent, mais c'est une fausse lumière. Et la vraie lumière, justement, c'est recevoir le Saint-Esprit. Elle nous promet la lumière de Lucifer, alors que la vraie lumière, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et à ce sujet, donc on voit ces fausses promesses mensongères d'une fausse lumière dans le Nouvel Âge, et on va voir quelle est la vraie lumière de la Bible. Et pour commencer, on va voir ce que nous dit la Bible en 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15, où la Bible dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Donc, le diable ne va pas venir à vous en essayant de vous effrayer, vous en peur, comme on voit le petit bonhomme avec la fourche qui va vous poursuivre. Non, le diable, il vient en ange de lumière. Il va vous séduire, il va vous tromper. Il va vous faire croire que ce qu'il dit est la vérité. Il va vous faire croire que c'est lui la lumière, en fait. Donc, le diable ne vient pas pour effrayer les gens, il attire les gens à lui. Pourquoi ? Pour que les gens soient condamnés, pour que les gens soient damnés. Donc, la Bible nous montre que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et on voit souvent, on va reparler peut-être de cette notion qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup des anges dans le Nouvel Âge. Et il est dit aussi, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Et souvent dans le Nouvel Âge, quand vous rencontrez des personnes qui enseignent, qui écrivent des livres, ils se font souvent passer pour des bonnes personnes, on a l'impression qu'ils sont lumineux, on a l'impression que tout va bien avec eux, ils sont au-dessus des autres. Et c'est pas étonnant parce que les ministres du diable se déguisent aussi en ministres de justice, donc ils se font passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et c'est la même chose avec les pharisiens. Les pharisiens paraissaient beaux au dehors, mais ils étaient pourris au-dedans. Et les faux prophètes du Nouvel Âge sont pourris au-dedans. Et souvent, c'est même des personnes qui sont gravement pourries. Donc voilà, c'était pour mentionner le fait que c'est pas étonnant que le diable séduise avec une fausse lumière, et c'est pas étonnant aussi que les personnes qui enseignent le Nouvel Âge séduisent avec une apparence de piété et d'humilité. Et ce qui est grave dans le Nouvel Âge aussi, c'est qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Et ça c'est grave, la Bible nous le dit que c'est grave, et c'est même pire parce qu'en plus le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et dans Ésaïe chapitre 5 verset 20, la Bible dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Donc la Bible est claire, si vous appelez le mal bien et le bien mal, malheur à vous. Et en plus il y a des personnes qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et c'est ça le Nouvel Âge. On appelle le bien mal et le mal bien, il n'y a plus de péché, on fait ce qu'on veut. Tant que ça nous plaît, on peut le faire. Et ça, c'est extrêmement grave. Dans Proverbe chapitre 28, au verset 26, au début du verset, il est dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. » Et c'est ça le Nouvel Âge. Les gens ont confiance dans leur propre cœur. Ils essaient de se fier à leur ressenti, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils veulent, etc. Et donc, il n'y a plus de notion de péché. Tout est bien. Tant qu'on aime, tout est bien. Et la Bible dit malheur, enfin, que les personnes qui font ça sont des insensés. Parce que si vous avez confiance dans votre propre cœur, vous êtes un insensé parce que le cœur est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Et donc la vraie lumière, elle n'est pas dans le Nouvel Âge, elle est dans la Bible. Et la vraie lumière, c'est Dieu. Dieu est saint et parfait et sans mal. C'est-à-dire que Dieu déteste le mal. Il n'y a pas une... Comment on pourrait dire ? Il n'y a pas une harmonie entre le bien et le mal. Il n'y a pas, comme on peut voir aussi, le yin et le yang, il y a du mal il y a toujours du mal dans le bien, il y a toujours du bien dans le mal, ça c'est faux, c'est un mensonge. En Dieu, il n'y a aucun mal. Et ça, la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc il n'y a aucune ténèbre en Dieu, il n'y a aucun mal en Dieu. Et donc cette fausse lumière du Nouvel Âge est remplie de mal et on nous enseigne que le mal est nécessaire à l'équilibre des choses et qu'il faut expérimenter le mal. Et ça, c'est un mensonge. Dieu déteste le mal et Dieu va punir le péché. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut recevoir ? Il nous faut recevoir la vraie lumière qui est le Saint-Esprit. Le Nouvel Âge vous promet cette lumière diabolique, cette lumière de Lucifer, cette fausse lumière, alors que la Bible promet le Saint-Esprit à ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc ça, c'était le cinquième point. On voit la fausse promesse du Nouvel Âge par rapport à la vraie promesse de la Bible. Pour faire un résumé de ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? C'est que le diable imite Dieu. Le diable ne fait que imiter. Il copie la vérité de Dieu et il la pervertit pour que les gens soient condamnés. Donc par exemple, il utilise cette notion de pèlerin, il utilise cette notion du fait que les gens, certaines personnes se sentent étrangers sur cette terre, et il l'utilise pour amener les gens dans le Nouvel Âge. Il utilise aussi cette notion de nouvelle terre pour promettre une fausse nouvelle terre aux gens. Il utilise cette notion d'illumination alors que c'est la nouvelle naissance dans la Bible, etc. Donc on voit que le diable copie Dieu. Et c'est comme dans le Jardin d'Éden, il l'a piégé en disant « Vous ne mourrez point, vos yeux s'ouvriront ». Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, donc c'est un piège. Alors que la Bible est la vérité et que les vraies promesses sont de Dieu. Et pour terminer ce premier message, après on va commencer le deuxième, je voulais dire qu'il y avait des graves dangers dans le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, non seulement vous êtes en danger de damnation, parce que si vous croyez dans cela, vous allez en enfer, mais aussi il y a des graves dangers pour votre vie physique. Parce que beaucoup de gens dans le Nouvel Âge perdent le sens des réalités. Ils deviennent complètement... ils perdent complètement la notion de vie. Beaucoup, pour eux, plus rien n'a d'importance. Tu peux faire tout ce que tu veux, tout va bien, tout est beau, et ils sont dans une espèce de bulle qui leur fait perdre le sens des réalités. Et ça, c'est très grave. On a rencontré beaucoup de gens au Nouvel Âge qui sont complètement perdus et qui peuvent plus sortir de cette spirale où, pour rien, tout va bien parce qu'ils sont les propres créateurs de leur vie, etc. Donc ça, c'est très grave. Et où ça peut conduire? Ça peut conduire aussi à des maladies psychiatriques. Il y a des gens dans le Nouvel Âge qui finissent avec des maladies psychiatriques parce qu'ils perdent complètement le sens des réalités et ils deviennent fous. Et un troisième point aussi, donc perdre le sens des réalités, les maladies psychiatriques, mais il y a aussi les possessions. Et des personnes dans le Nouvel Âge ouvrent des portes à des cas de possession. Et dans Actes chapitre 16, verset 16, il est dit « Et il arriva, comme nous allions à la prière, une certaine jeune fille possédée d'un esprit de divination qui apportait à ses maîtres beaucoup de gains par sa divination, vint à notre rencontre. » Bon, je ne vais pas étudier cette histoire, mais on voit dans Actes chapitre 16 qu'il y a une jeune fille qui est possédée par quoi? Un esprit de divination. Et si vous êtes dans le Nouvel Âge, vous ouvrez une porte à ces esprits de divination, vous ouvrez une porte aux possessions, parce que par la prière, si vous priez des faux dieux, si vous priez des mauvaises choses, vous ouvrez une porte au diable et à ses démons. Aussi par la méditation transcendantale, vous ouvrez une porte à cela, par le yoga aussi, parce que le yoga est très malfaisant aussi. Donc en fait, si vous pratiquez le Nouvel Âge, quel que soit, si vous priez ou méditez ou faites du yoga, vous ouvrez des portes au diable et vous ouvrez des portes aux esprits malsains. Voilà, donc ça c'est le premier message. On va enchaîner directement sur le deuxième message. Donc le premier message c'était le New Age selon la Bible. Mais le deuxième message est un peu similaire mais avec des notions différentes. C'est que le New Age c'est un piège du diable. Donc on a bien vu que c'était un piège du diable. Mais là on va rentrer dans d'autres points pour montrer que justement le diable piège les gens. Donc on l'a déjà dit, mais le diable est un imitateur, il copie Dieu. Et il trompe et il ment justement afin que les gens soient condamnés. L'objectif du diable c'est que le plus de monde possible aille avec lui en enfer parce qu'il sait qu'il est déjà condamné. Donc, pour commencer, on va voir un premier point. Il faut savoir que beaucoup de personnes dans le New Age ou qui tombent dans le New Age sont à la recherche de leur origine ou alors d'un monde meilleur. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le New Age parce qu'ils recherchent d'où ils viennent, ils recherchent un monde meilleur. Et ça, c'est vraiment justement un des pièges du diable qui leur fait croire, qui va leur faire croire des fausses choses sur leur origine ou alors sur le monde meilleur que le diable promet. Par exemple, des personnes vont dire qu'ils viennent d'autres planètes. Il y a beaucoup de personnes dans le Nouvel Âge qui disent ouais, « voilà, moi je viens de telle planète, moi je viens de ceci, moi je viens de cela. » Ou alors qu'ils vont aller dans un monde meilleur, donc cette notion de nouvelle terre, de monde meilleur, d'ascension, etc. Donc ça c'est un piège du diable. Et on va voir justement ce que la Bible nous dit. Si vous voulez aller dans Hébreux chapitre 11, pour ceux qui veulent. Parce que la Bible parle d'une cité céleste. Donc rechercher un monde meilleur, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Et rechercher un monde meilleur, rechercher notre origine, c'est pas une mauvaise chose. Et Dieu dit qu'il a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Donc les humains ont ces pensées de où est-ce que je viens, pourquoi je suis ici, où est-ce que je vais aller. Et le Nouvel Âge, le diable ce qu'il fait, c'est qu'il attrape des gens et les amène dans ces perversions. Et bien sûr, quelqu'un qui recherche la vérité va la trouver. Parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve. Donc il n'y a pas d'excuse pour les gens qui tombent dans le Nouvel Âge. Et surtout pour les gens qui y restent. C'est pas la notion du fait, oh, les pauvres personnes, elles sont tombées dans ce piège. Non, les personnes, si elles veulent la vérité, elles vont l'avoir. Mais c'est dans le sens où on pointe du doigt justement le piège du diable. Et qu'est-ce que dit la Bible à côté pour que les gens qui sont dans le Nouvel Âge et qui recherchent la vérité puissent connaître la vérité en fait. Et donc le premier point, donc, c'est le fait que Dieu nous parle d'une cité céleste. Donc c'est un monde meilleur. Et vouloir cette cité céleste, c'est vraiment bien. Il faut vouloir un monde meilleur, il faut vouloir cette cité céleste, il faut vouloir la justice. C'est Dieu qui nous la promet. Et dans le Nouvel Âge, c'est perverti. Donc dans Hébreux chapitre 11, au verset 1, la Bible nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et par rapport à la première partie du verset, je voulais souligner le fait que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand on a foi en quelque chose, c'est qu'on a une ferme assurance dans quelque chose qu'on espère. Et dans le Nouvel Âge, par exemple, il y a des personnes qui ont foi dans le fait qu'ils viennent d'une autre planète. Donc ils ont cette assurance en eux-mêmes d'espérer aller sur cette autre planète après. Donc les gens dans le Nouvel Âge ont une foi, mais ils ont une foi dans un mensonge. En fait, comme les athées, par exemple, croient dans des mensonges, mais ils croient en quelque chose. Parce que les athées, souvent, ils disent « moi, je crois en rien ». Déjà, rien que le fait de croire en rien, ça veut dire qu'ils croient en quelque chose. Donc en fait, dans les fausses religions, tout le monde croit en quelque chose. Et n'importe quel être humain croit en quelque chose. Il y en a qui croient que voilà, qu'ils ne sont rien, donc ça veut dire qu'ils croient en quelque chose. Tout le monde croit en quelque chose. Et c'est pour donc définir cette notion de foi. Et Et donc nous, en tant que chrétiens, on a foi dans le fait qu'il y a une cité céleste, donc que Dieu nous prépare un monde meilleur. Et dans Hébreux chapitre 11, on va lire des versets 13 à 16. Hébreux chapitre 11, des versets 13 à 16, parce que ça nous parle. Ça nous parle de cette cité céleste. Hébreux chapitre 11, qui sont vraiment des beaux versets, qui nous disent « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Et donc on voit au verset 13, ce sont des personnes qui sont mortes dans la foi, donc ce sont des croyants, et ils ont pas obtenu les choses promises, parce que quand on est croyant en Jésus-Christ, on n'a pas encore obtenu tout notre héritage céleste. On n'est pas encore au paradis, on n'est pas encore dans la gloire de Dieu. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, donc ils ont cru aux promesses de Dieu, ils ont étreint les promesses de Dieu, ils les ont fait les leurs en fait. Et il est dit qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et au verset 16, il est dit « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être après leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Donc on voit que ces gens cherchaient une meilleure cité, ils cherchaient un monde meilleur. Et Dieu a préparé justement ce monde meilleur pour ses enfants. Et c'est la cité céleste, c'est Sion. Et donc, c'est une bonne chose de chercher une meilleure cité, mais il faut le faire selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, on doit mettre notre confiance dans ce que Dieu dit et pas dans ce qu'on voudrait nous-mêmes. Amen. Comme on a vu, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 22 aussi, il y a cette cité céleste qui est mentionnée. Hébreux chapitre 12, verset 22, il est dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Donc on voit cette montagne de Sion, cette cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Donc c'est notre maison en tant que chrétien, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la cité du Dieu vivant, c'est Sion. Et on va voir aussi d'autres versets à ce sujet dans Psaume chapitre 50, des versets 1 à 2, qui nous parlent de Sion. Donc Psaume chapitre 50, versets 1 à 2, où la Bible dit « Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. » Et le verset 2, je le trouve vraiment magnifique, il est dit « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. » On voit cette cité céleste où Dieu resplendit, qui est d'une beauté parfaite. Et donc c'est pourquoi ? Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Donc ça c'est Sion, c'est cette cité céleste. Et si vous voulez aller dans Ésaïe chapitre 9 aussi, on va lire deux versets dans Ésaïe chapitre 9. Là on est dans le premier point, le fait que dans le Nouvel Âge on promet un monde meilleur qui est mensonger, alors que dans la Bible on nous promet cette cité céleste, ce monde merveilleux où il y a la gloire de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 9, au verset 1, il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Donc ça nous parle de Jésus-Christ. Cette grande lumière, cette lumière qui resplendit, c'est Jésus-Christ. Et ça prophétise le fait que Jésus-Christ va venir dans Jean chapitre 1, où il y a une notion de la lumière, une notion que les hommes ont rejetée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc il est cette lumière qui resplendit, il est cette grande lumière. Et on voit d'ailleurs au verset 5, un peu plus bas, où il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donc ça prophétise le fait que Jésus-Christ va venir, et la domination va reposer sur son épaule, il est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Et donc, cette merveilleuse lumière, c'est Jésus-Christ. Et on avait vu « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit », cette lumière qui resplendit, c'est Dieu, et c'est Jésus-Christ. Donc dans cette cité céleste, il y a la gloire de Dieu. Et donc Dieu a préparé une cité pour ses enfants, et cette cité est d'une beauté parfaite, mais il vous faut prendre part à cette cité. Pour prendre part à cette cité, c'est pas automatique, comme on a dit, il faut croire en Jésus-Christ, il faut être un enfant de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5, à la fin du verset, on avait vu, il est dit « Prince de la paix ». Et qui est le Prince de la paix ? C'est Jésus-Christ, bien sûr. Il est dit « Car un enfant nous est né, et c'est lui le Prince de la paix ». Et donc ça me mène à mon deuxième point, qui est que dans le Nouvel Âge, on nous promet une fausse paix. Souvent dans le Nouvel Âge, on dit la paix, la paix, la paix. Même dans le bouddhisme, on dit voilà, il faut méditer pour être en paix, il faut arriver à cet état de paix intérieure, cet état de paix. Et c'est un piège du diable. Le diable promet une fausse paix, ce qu'on appelle la paix du monde. Et Et cette fausse méditation donc, qu'on fait dans le village qui est centré sur soi, c'est pas la vraie méditation. On va justement définir ce que c'est que la méditation, parce que la Bible nous parle du mot méditer. Et dans Wikipédia, il est dit, au sujet de la méditation, il est dit « Cette pratique peut chercher à produire une paix intérieure. » Donc on voit que la pratique de la méditation, c'est fait pour provoquer une paix intérieure. Et donc c'est une paix charnelle, c'est une paix du monde. Dans Jean chapitre 14, Jésus nous parle justement de cette notion de paix. Jean chapitre 14, au verset 27, il est dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais pas la paix du monde. » Comme il est dit après, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Parce que tout ce qui est bouddhisme, hindouisme, nouvel âge, vous donne une paix du monde. Jésus, lui, donne la vraie paix. Et c'est cette vraie paix qu'on doit recevoir. C'est la paix de Jésus-Christ, ce n'est pas la paix du monde. Et comme on l'a mentionné, Jésus est le prince de la paix. Et j'aime bien cette phrase, c'est qu'il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. En fait, vous ne pouvez pas avoir de paix dans votre vie si vous n'avez pas le prince de la paix. Et ce prince de la paix, c'est Jésus-Christ. C'est pareil, il n'y aura pas de paix dans le monde tant que Jésus-Christ ne va pas établir le millénium. Parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et donc, sans le prince de la paix, pas de paix possible. Et Jésus, d'ailleurs, a dit qu'il n'est pas venu amener la paix, mais l'épée. Pourquoi ? Parce que ça va créer de la division. Et bien sûr, Jésus veut qu'on vienne à lui. Jésus est le prince de la paix. Il ne veut pas la guerre. Mais l'être humain étant pécheur, ben ce sont les conséquences du péché. Et dans Romains chapitre 5, verset 1, qui est un verset clair sur le salut, la Bible dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc pour avoir la paix avec Dieu, il faut être justifié par la foi, il faut croire en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, toutes les paix que vous recherchez ne sont pas des vraies paix, ce sont des paix du monde. Et dans le Nouvel Âge, justement, par la méditation, par le yoga, par toutes ces pratiques, on vous promet la paix, mais ce n'est pas la vraie paix. Il vous faut être en paix avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, vous irez en enfer, vous serez puni pour vos péchés. Et là, la Bible est claire, comment on est justifié par la foi. Il n'est pas dit par les œuvres, il n'est pas dit par notre comportement, il est dit par la foi. Donc c'est seulement en croyant en Jésus-Christ. Donc voilà le deuxième point. Et on va rebondir pour faire un troisième point sur cette notion de méditation. Donc j'ai mentionné ce que c'est que la méditation. Et sur Wikipédia encore, il y a une définition de la méditation où il est dit « Le terme méditation désigne une pratique mentale qui consiste généralement à une attention portée sur un certain objet au niveau de la pensée, des émotions, du corps. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation de soi et d'éveil. » Donc ce que dit Wikipédia, c'est que par la méditation, on a une réalisation de soi, une réalisation d'éveil. Donc en fait, c'est toujours centré sur soi. C'est comme si nous-mêmes, nous devions être Dieu, comme si on devait se réaliser soi-même. Et on l'a mentionné tout à l'heure, Proverbe chapitre 28, verset 26, mais là je vais donner tout le verset au complet, où il est dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Donc encore une fois, on voit que si vous vous confiez dans votre cœur par la méditation, en cherchant en vous-même, vous êtes un insensé, vous êtes fou. Parce que la Bible dit d'ailleurs dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Donc le cœur de l'homme est mauvais, il ne faut pas se fier à son cœur, il faut se fier à Dieu. Et dans cette méditation bouddhiste, en fait, c'est toujours le soi, moi, c'est toujours moi, en fait. On est toujours centré sur soi, dans l'hindouisme, le New Age, c'est toujours moi. Au lieu de regarder à Dieu, on regarde à soi-même. Et bien sûr, le New Age, je parle souvent du bouddhisme et de l'hindouisme, parce que le New Age est en grande partie tiré de la philosophie bouddhiste, hindouiste. Et beaucoup de notions du Nouvel Âge se retrouvent dans ces fausses religions. Et le monde dit que c'est de la sagesse, parce que si vous demandez au monde de la sagesse, beaucoup de gens vont vous citer Bouddha, par exemple. Bouddha, c'est sage, le bouddhisme, c'est de la sagesse. Ceux qui pratiquent le bouddhisme, c'est des sages, ils sont passés pour des sages. Et la vérité est complètement à l'inverse, c'est de la folie. Et d'ailleurs, le Bouddha est caractérisé, selon moi, par sa profonde sagesse. Et il est dit que la sagesse est au cœur du bouddhisme. Donc souvent, si vous tapez bouddhisme, sagesse, ça va souvent ensemble, bouddhisme, sagesse, Bouddha était sage. Et ça, c'est un mensonge. Comme on a dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset, justement, c'est intéressant à souligner, c'est qu'il est dit que si vous avez confiance dans votre cœur, vous êtes un fou, et il y a un « mais », donc ça veut dire que c'est l'opposé, mais celui qui marche dans la sagesse. Donc, le bouddhisme, c'est l'inverse de la sagesse.
Amen.
Dans le monde, on nous dit que le bouddhisme, c'est la sagesse, mais c'est l'inverse, parce que dans le bouddhisme, on dit de se confier en soi, alors que la Bible dit « celui qui marche dans la sagesse sera sauvé ». Donc, c'est l'inverse de marcher dans la sagesse, le bouddhisme. Le Nouvel Âge aussi. La sagesse est tout autre, la sagesse elle est dans la Bible. Et donc le bouddhisme en fait c'est pas de la sagesse, c'est de la folie. Amen. Et le Nouvel Âge c'est pas de la sagesse, c'est de la folie. Et comme on a dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître ? Donc se confier en soi c'est de la folie parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et donc ça, c'est la méditation. Donc cette notion de méditation, on va essayer de chercher en soi, on se centre sur soi, qui est un piège du diable. La vraie méditation dans la Bible, justement, qu'est-ce que c'est ? Bah, dans Psaume chapitre 1, verset 2, il est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, est-ce qu'on doit méditer en pensant à nous-mêmes, à nos propres aspirations ? Est-ce qu'on doit méditer en essayant de se réaliser soi-même ? Non. On doit méditer sur la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre cœur est mauvais. Par contre, Dieu est bon. Donc, la vraie méditation, c'est de méditer la Bible. C'est de lire la Bible, méditer les versets, d'apprendre des versets pour les méditer chaque jour. Ça, c'est la vraie méditation et c'est ce que Dieu définit comme méditer. Et il y a aussi Psaume chapitre 119, au verset 14 et 15, qui dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Donc, on se réjouit en suivant les préceptes de Dieu, on se réjouit en lisant la Bible et en l'appliquant, comme si je possédais tous les trésors. Donc, si vous avez la Bible, vous avez tous les trésors. Parce que même dans Colossiens, il est dit qu'en Jésus-Christ, il y a tous les trésors. Et il y a la plénitude de la divinité. Et donc, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Ce qu'on doit faire en tant que chrétien, c'est qu'on doit avoir la Bible sous nos yeux et on a les sentiers de Dieu sous nos yeux. On ne se fie pas dans nous-mêmes, on se fie dans ce que Dieu dit. Et on médite ses ordonnances. Donc ça, c'est la notion de méditation qui est pervertie dans le New Age. Donc ce qu'on a vu, on a vu dans un premier point que dans le Nouvel Âge, il y a le piège du diable. Pour toutes les personnes qui recherchent leur origine ou un monde meilleur, le diable les attire dans des mensonges, alors que la Bible nous promet une cité céleste pour les enfants de Dieu, donc il nous faut être sauvés pour prendre part à cette cité. On a la fausse paix du Nouvel Âge, alors qu'on a la vraie paix qui est dans la Bible. Et on a cette notion de méditation aussi qui est pervertie dans le Nouvel Âge. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, on va noter quelques autres points de séduction du Nouvel Âge. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais en donner quelques autres. C'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup cette notion d'ange dans le Nouvel Âge. Les gens prient les anges, les personnes disent, voilà, tel ange c'est mon protecteur, tel ange ceci, tel ange cela. Il y a beaucoup, il y a même des gens qui guérissent avec les anges, etc. Donc il y a cette notion d'ange. Et comme on avait vu dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il est dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc c'est pas étonnant que dans le Nouvel Âge, on ait toutes ces notions d'ange, etc. Pourquoi ? Parce que le diable prend ce qui est dans la Bible et il le pervertit. Donc les gens ont peut-être une aspiration à dire, ouais, peut-être que les anges existent, et ils sont attirés quelque part par les anges. Et c'est pas étonnant ça, parce que c'est dans la Bible. Mais le diable pervertit cette notion d'ange. On ne doit pas prier les anges, on ne doit pas vénérer les anges, on doit seulement vénérer Dieu. Et Dieu nous protège par ses anges. Donc voilà, on a cette notion d'ange de lumière. On va aller dans 1 Timothée chapitre 4, si vous voulez bien aussi. 1 Timothée chapitre 4. Car on peut voir cette fausse spiritualité du Nouvel Âge. 1 Timothée chapitre 4, on va lire des versets 1 à 5. Il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc les derniers temps c'est les jours que nous vivons, les temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Donc on voit que dans les derniers temps, il y aura des gens vont abandonner la foi, donc les gens vont se détourner de la Bible pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et le Nouvel Âge est une doctrine de démons. Elle est guidée par des esprits séducteurs. Et je veux aussi, ce que je veux souligner aussi dans ce verset, dans ce point, c'est qu'il est dit qu'il y a des gens qui prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Et il y a une grande mouvance dans le Nouvel Âge, c'est le véganisme. C'est le fait d'être végétarien, d'être végane. Et de prôner voilà, que les hommes devraient être végétariens, que les animaux sont à l'égal de l'homme, etc. Et qu'est-ce que dit la Bible à propos du véganisme ? Une doctrine de démon. Donc Dieu est clair, le véganisme est une doctrine de démon. Les gens qui essayent d'imposer le fait qu'on doit être végan, qu'on doit être végétarien, eh ben, ils imposent une doctrine de démon sur les autres. La Bible est claire, il est dit, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. » Donc on n'a pas le droit de juger quelqu'un sur ce qu'il mange. Et imposer le véganisme, c'est imposer une doctrine de démon. Et on a vraiment cette notion de véganisme qui prend une ampleur considérable dans le Nouvel Âge, mais aussi dans le monde entier, où on dit que l'homme et l'animal sont égaux. Mais ça, c'est un mensonge. Et Et on va aller dans Colossiens chapitre 2, verset 16 aussi, parce que ça parle de cela. Colossiens chapitre 2, verset 16. Donc là, on parle du fait que le véganisme est une doctrine de démon. Essayez d'imposer ses croyances, c'est une doctrine de démon. Si vous voulez être vegan et végétarien, tant mieux pour vous. Mais l'imposez pas aux autres, parce que sinon, vous imposez votre doctrine. Et il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc que personne ne vous juge sur votre manger ou sur le boire. Donc vous mangez parce que toutes choses sont bonnes et Dieu nous a donné toutes choses. Donc cette doctrine végane est une doctrine de démon. Et toutes les personnes qui croient que l'homme et l'animal sont égaux sont fous. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, alors que l'animal a été créé pour l'homme. Et on pourrait aller dans beaucoup de versions, on pourrait en faire un sermon complet, mais l'homme et l'animal ne sont pas égaux. Amen. Et vouloir sauver les animaux, vouloir avoir cette notion de se battre pour les animaux, c'est un faux combat. Vous allez aller nulle part avec ça. Amen. Et on le voit bien, il y a beaucoup d'histoires qui montrent que Jésus-Christ se soucie des hommes et pas des animaux. Dans Colossiens, cette notion de fausse spiritualité, et notamment par rapport au véganisme, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Dans un autre point, aussi dans le Nouvel Âge, on prône beaucoup les visions, les révélations, et c'est de la sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcellerie dans le Nouvel Âge, même si on dit que c'est une bonne sorcellerie, c'est la magie blanche, etc. Il n'y a aucune bonne sorcellerie. Et donc ces visions, ces révélations, et dans Colossiens chapitre 2, verset 18, il est dit « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Donc, justement, souvent, comme je l'ai mentionné, ces faux prophètes du Nouvel Âge sont sous une apparence d'humilité. Et souvent, ils font un culte des anges. Et la Bible nous met en garde contre ces personnes-là. Parce qu'ils s'abandonnent à leur vision, ils sont enflés d'un vain orgueil par ses pensées, par leurs pensées charnelles. Ce sont des gens charnels qui sont enflés d'orgueil. Et donc, il faut faire attention aux apparences d'humilité, il faut faire attention aux personnes aussi qui vénèrent les anges, qui font un culte aux anges. La Bible nous met en garde contre ça. Et contre leur vision, leur révélation aussi. Et dans Deutéronome chapitre 18, je vais lire rapidement Deutéronome chapitre 18 parce que c'est important, parce que beaucoup de personnes dans le Nouvel Âge pratiquent la sorcellerie ou la divination, ou alors essayent de prier des faux dieux, etc. Qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 9 ? Il est dit « Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Donc si vous pratiquez tout ça, c'est en abomination à l'Éternel. Il faut le savoir. Et en plus, on voit que Dieu nous met le fait de faire passer son fils ou sa fille par le feu dans le même verset qu'être astrologue, dans le même verset qu'être magicien ou enchanteur. Pourtant, c'est quelque chose de grave. La plupart des gens se diraient « mais c'est affreux de passer son fils ou sa fille par le feu. » Et bien Dieu le met dans le même verset. Bien sûr, c'est pas la même chose, mais il le met dans le même verset que les magiciens, les astrologues, etc. Pourquoi ? Parce que c'est en abomination aux yeux de l'Éternel. On pourrait mentionner aussi d'autres choses. Peut-être que je le ferai dans le prochain, mais dans le Nouvel Âge, souvent, on a cette notion de mission de vie, les indigos, de sauver le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent « ah, moi je suis un indigo, moi je veux sauver le monde, c'est mission de vie. » Et ça, c'est encore un piège du diable, parce que on a une mission de vie, c'est vrai, c'est de sauver les âmes des autres personnes. Mais il faut d'abord déjà être sauvé soi-même pour aller prêcher l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. Mais on a cette notion de mission de vie qui est pervertie dans le Nouvel Âge. Donc si vous êtes dans le Nouvel Âge, il faut vous repentir de cette fausse religion. Et se repentir de cette fausse religion, ça veut dire arrêter de croire dans ces mensonges afin de croire en Jésus-Christ, afin d'être sauvé. Et pour terminer, on va aller dans Jean chapitre 9, si vous voulez aller dans Jean chapitre 9. On va terminer le message avec Jean chapitre 9. Qui est l'histoire d'un aveugle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ va guérir un aveugle. Et il est dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Donc Jésus-Christ va rencontrer cet aveugle qui a été guéri, et lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et qu'est-ce que va dire l'aveugle ? Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Et en fait, je lis ce verset parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être dans le Nouvel Âge, qui disent « Mais qui est Dieu ? Que je puisse croire en lui ? Qui est la vérité ? Qui est le chemin ?» Et je sais que nous, quand on était dans le Nouvel Âge, c'était ça, on recherchait la vérité, on voulait savoir qui était Dieu. Et ben Jésus, justement, répond « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. » Donc c'est Jésus-Christ. Si vous recherchez la vérité, si vous recherchez le chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est vraiment un magnifique passage, parce qu'en plus, le monsieur lui dit qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui. Donc il voulait croire en la vérité, il voulait la vérité. Donc si vous êtes dans le Nouvel Âge, vous voulez la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. Et bien sûr, il va croire, gloire à Dieu, il va être sauvé et il va rendre gloire à Dieu. Donc c'est ça, si vous êtes dans le Nouvel Âge et que vous voulez la vérité, c'est Jésus-Christ la vérité. Qui est-il pour que je croie en lui, le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc si vous êtes dans le Nouvel Âge, il vous faut croire en Jésus-Christ pour être pardonné de vos péchés afin d'avoir la vie éternelle. Voilà, que Dieu soit loué. Amen.